Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire de Robert Hébras, 94 ans, le dernier des survivants du massacre d'Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne, le 10 juin 1944. Il avait 19 ans. Ce jour-là, il a perdu sa mère, deux de ses sœurs et 642 habitants de son village. J'ai tiré ce récit de son livre, paru aux éditions Elitel, « Avant que ma voix ne s'éteigne ». La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
En 1944, la vie est paisible à Oradour-sur-Glane. On vit au rythme du bourdonnement des cloches de l'église, du bruit sourd de l'enclume du forgeron qui ferre le sabot des vaches, du marchand de vin qui lave brillamment ses fûts. J'habite juste en face. Ça me réveille tous les matins. La guerre? Honnêtement, on la vit de loin. Il y a eu des difficultés, bien sûr. 168 hommes du village ont été envoyés sur le front en 39. 4 sont morts. Une cinquantaine ont été faits prisonniers de guerre. Depuis 1940, on manque de sucre, de café, de beurre. On cuisine au Saint-Doux. Et le vendredi, on n'a pas d'autre poisson que de la morue. Mais c'est à peu près tout ce qu'on subit de la guerre. En juin 1944, on n'a jamais vu un soldat de la Wehrmacht à Oradour. Jamais. Moi, à cette époque-là, je suis encore un gamin. Un gamin de 19 ans, né en 25 à Oradour-sur-Glane. La plupart de mes copains d'école sont des petits paysans, mais pas moi. Mon père est électricien. Il travaille pour la compagnie du tramway. On est 4 enfants. Je suis le seul garçon, entre 2 grandes sœurs et une plus petite. On n'est pas riche, mais on manque de rien. En 1944, je travaille chez un garagiste à Limoges. J'y vais tous les jours en tramway. Un gamin, je vous dis. Un gamin qui, en une journée, va devenir un homme. Le 6 juin, on a su pour le débarquement américain en Normandie.
Ce soir, le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France.
Ici, Londres. Ceci termine notre émission de 13 heures destinée à l'Europe.
Ça nous a donné de l'espoir. Mais le reste, on ne nous a pas prévenus. On ne nous a pas prévenu que dans le sud, la Panzerdivision SS Das Reich remontait vers le nord, qu'elle avait pour mission de mater la résistance du Limousin. On n'a pas su que la veille, elle avait pendu 99 habitants de Tulle au lampadaire. On n'a pas su qu'elle avait décidé ensuite d'anéantir un village. On n'a pas su que c'était notre village. On n'a pas su qu'à 14 heures, Oradour était cerné. Le 9 juin, je quitte mon travail à Limoges à l'heure habituelle.
Hey « Hé Robert, viens pas demain, hein. Prends ta journée, on verra plus tard. »
C'est pas souvent qu'il nous donne congé, le patron. La joie du débarquement, peut-être. Tout ça pour dire que normalement, je n'aurais pas dû être à Oradour le lendemain. Je vais prendre le tram à la gare. On traverse Limoges, tout est calme, serein. Il fait beau. Le lendemain, le samedi 10 juin, mon père se lève tôt.
« Bon, dis Robert, faut que j'aille à Saint-Victurnien, là. Je serai pas de retour avant la fin de l'après-midi. J'ai promis à la voisine d'aller lui mettre une prise électrique. Tu peux y aller pour moi ?»«
J'y vais, bien sûr. » À 14 heures précises, je suis devant notre maison avec mon ami Martial Brissot. On bavarde, on parle du match de football du lendemain.
« Oh bah, je sais pas bien comment qu'on va s'en sortir avec notre gardien qui est pas là. »
Et là, on voit arriver deux autochenilles, deux camions remplis de Waffen-SS, armés jusqu'aux dents. Ils traversent le village. Moi, je me dis qu'ils sont en route pour le front, en Normandie.
Mais Martial prend peur tout de suite. Dis, Robert, je vais y aller, moi. Je reste pas là. Allez, ils vont pas nous manger. Les deux autochenilles allemandes s'arrêtent en haut du village. Elles font demi-tour. Les SS en descendent. Deux d'entre eux remontent notre rue des deux côtés. Et maison par maison, ils font sortir tout le monde.
Place ! Place ! Vous allez place maintenant ! Place ! Place !
On les a suivis. On a fait ce qu'ils demandaient sans hésiter. On n'avait rien à se reprocher. Cela dit, certains n'ont pas voulu leur obéir. Roger, par exemple, un gamin de 8 ans qui habite à côté de chez nous, sa mère lui répétait toujours « Dès que tu vois un Allemand, tu pars ». Il s'est enfui. Comme le marchand de tissus qui a fermé sa boutique et qui s'est éclipsé. Comme les enfants du tanneur, Jacqueline, Francine et André. Mais le reste de la famille a rejoint l'attroupement. Et moi, j'ai été naïf. Et pourtant, ma mère m'a dit de fuir. Pourquoi que je partirais ? Je suis en règle, j'ai rien à me reprocher. Je suis pas le seul. Le maire et l'instituteur, ils sont allés aussi. Ils commencent par mettre le feu au village, maison par maison. Et nous, on se rassemble tous sur le champ de foire. Un peu inquiet, mais sans rien redouter. Une quinzaine de SS nous encerclent. Ils n'ont pas l'air nerveux. On n'a aucune raison de craindre le pire. Et pourtant, aux quatre coins, ils ont installé quatre mitrailleuses pointées vers nous. Regardez-nous, au milieu de cette place. Moi, avec mon tricot de corps, le boulanger en tenue de travail, les mères avec leurs enfants dans les bras, et bientôt d'autres qui arrivent. Ils en ramènent de tous les hameaux alentours, par camion entier. Ils les déchargent et ils repartent en chercher d'autres. Denise ! Je viens de repérer ma petite sœur de 9 ans au milieu des filles de son école. Elle est terrorisée. À un moment, le pâtissier va voir une sentinelle.
Excusez-moi. Faudrait que j'aille voir mes gâteaux dans le four, là. Je les ai mis à cuire, j'ai peur qu'ils brûlent.
Ne vous inquiétez pas. On va s'en occuper.
Ça dure comme ça, trois quarts d'heure, une heure. Et puis ?
Les hommes de ce côté ! Les femmes de l'autre côté.
L'institutrice veut garder son petit garçon trisomique avec elle.
Pas de problème, madame. Pas de problème.
Je sais. Je sais que ça va vous paraître incroyable. Mais la séparation des hommes, des enfants et des femmes se déroule sans problème. Les femmes et les enfants partent les premiers sous la menace de leurs armes. Je cherche ma mère et ma sœur dans la foule. Je vois qu'elle me regarde. Je sens qu'elle a peur. Peur pour moi, j'en suis sûr, pas pour elle. Nous, les hommes, ils nous mettent en rempart trois face au mur. Si on avait su que la veille, ils avaient pendu 99 personnes à Tulle, on serait partis. On aurait couru. On se serait révoltés. Mais on ne le sait pas. Avec la guerre, il n'y a plus de journaux. Ne pas savoir fait donc de nous des prisonniers obéissants qui se mettent gentiment en rang, par trois, face au mur.
Qui est le maire du village ?
Monsieur Desourteaux fait un pas en avant.
Choisissez des otages, monsieur le maire.
Courageux, il se désigne lui-même. Et on le voit partir entre deux SS vers la mairie. On n'a jamais su ce qu'il leur avait dit. Ils sont revenus quelques minutes plus tard.
Nous savons qu'il y a des armes cachées ici, dans ce village. Nous allons donc les chercher. Nous allons fouiller les maisons. Tous ceux qui ne seront pas concernés seront relâchés.
Nous, on sait qu'il n'y en a pas, des armes. En dehors de quelques fusils de chasse. À ce moment-là, on se dit, ça va bien se terminer. Et dans les rangs, il y en a qui commencent à penser à leur bétail, qu'il faut qu'ils aillent nourrir. Et donc on attend, moins inquiets. Certains commencent à s'asseoir sur le bord du trottoir.
Les SS autour se mettent à bavarder entre eux. Il y en a qui rient. Et puis d'un coup, un SS nous divise en quatre groupes. Moi je me dis, ils nous séparent pour nous empêcher de fuir pendant qu'ils fouillent nos maisons. Ils prennent le premier groupe, ils l'emmènent dans un chai, le chai Denis. Ils prennent le maire avec eux. On le retrouvera avec deux balles en plein cœur. Dans mon groupe, on est 50, 60. Ils nous emmènent dans la grange Lodi. Quand on entre dans la grange, elle est encombrée de charrettes. Alors les plus âgés les déplacent. Et nous, les plus jeunes, ben, on s'assoit dans le foin. Et on attend. Les SS commencent par balayer l'entrée de la grange. Ils sont 5. Si on avait su, on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Et après, devant l'entrée, ils installent des mitrailleuses. Et nous, on s'intéresse pas plus que ça à eux. À un moment, l'un d'entre eux se met à faire le tour du groupe.
« Levez-vous !»
Il regagne l'entrée de la grange. Et là, on entend une détonation au loin dans le village. C'est le signal. Et on est tous tombés d'un coup. Moi, quand ils ont tiré, j'étais tout au fond. Au début, j'ai cru qu'ils tiraient en l'air, mais comme les autres, j'ai plongé. Et maintenant, je suis couché par terre, mon bras ramené sur la tête comme si ça servait à quelque chose. Il y a des corps au-dessus de moi, et je sens un liquide chaud qui coule. C'est du sang. Moi, j'ai été blessé à la tête, au sein gauche et à la cuisse, mais ça va. Mes blessures sont superficielles. J'ai été sauvé par les autres, par le rempart de leur corps. Les Waffen-SS savent bien que tout le monde n'est pas mort. Alors ils font le tour, ils repèrent ceux qui bougent ou qui gémissent. Et ils les achèvent. Et moi je suis sous les cadavres. Ils ne me voient pas. Et puis ils prennent du foin, des fagots de bois, et ils en recouvrent les corps. Et ils s'en vont. Et dans le tas, j'en entends un qui dit « Oh les salauds! Ils m'ont coupé l'autre jambe !» Je le reconnais, c'est un mutilé de la première guerre. D'autres appellent leurs femmes ou leurs enfants. Moi je ne bouge pas. Ils n'ont pas pu tuer tout le monde. C'est pas possible. Je fais un cauchemar. Et puis, un bruit de bottes, les voilà qui reviennent. Ils mettent le feu à l'entrée de la grange. Robert, faut que tu fasses quelque chose. Faut que tu partes. Faut que tu te sauves. Tu veux pas mourir comme ça? Il n'y a pas beaucoup de fumée, mais la chaleur devient insupportable. L'extrémité de mes cheveux commence à roussir. Alors j'aperçois une porte, je l'ouvre, mince, elle donne sur une cour sans issue. Je reviens dans la grange, je vois une autre porte, elle donne sur une autre grange. Je regarde à gauche, à droite, pas de SS. Ils sont partis. Alors je vais me cacher dans une étable cochon. Au loin, j'entends tirer de tous les côtés. Et puis un moment, j'entends des voix. Des gens qui parlent français, et pas toi.
Comment qu'ils vaillent ? Ça va ?
À l'oreille, j'arrive à les retrouver. Ils sont 4. Yvon Roby, Marcel Dartout, Mathieu Bory et Clément Broussaudier. On se retrouve donc tous les 5, cernés par le feu, dans une cour sans issue. Faut pas traîner. Sur le côté, il y a un mur de planches vermoulues. Les copains se mettent à l'attaquer à coups de couteau. Ça donne sur une autre grange. Et ainsi de suite. On avance de grange en grange, ça nous prend des heures, avec le feu derrière qui sans cesse s'approche. Il fait très chaud, on a très soif. À un moment, deux Waffen-SS entrent dans une des granges, ils sont à moins d'1 mètre de nous, et ils mettent le feu à un tas de paille et ils repartent.
Sauf que deux d'entre nous sont montés se réfugier dans le grenier. C'est trop tard.
On n'est plus que trois. Bourri, Dartou qui est blessé aux jambes, et moi. Et on arrive comme ça à la dernière grange de la rue, qui donne sur une place. On jette un œil. Il y a des sentinelles en faction, faut attendre. Aux alentours de 7 heures du soir, la voie est enfin libre. Les sentinelles sont parties du côté du cimetière. Mathieu Bory parle premier.
Je vous attends de l'autre côté de la place.
Marcel et moi, on ne bouge pas. Marcel est beaucoup plus blessé que moi. Il a de plus en plus de mal à marcher.
Je peux faire quelque chose pour toi, Marcel ?
Non. Rien, Robert, rien. Maintenant, faut plus traîner. Le feu se rapproche. Je m'élance le premier. Une fois de l'autre côté de la place, je fais signe à Marcel. Il n'a pas pu arriver jusqu'à moi. Il est resté planqué derrière un buisson. Avec Mathieu, on va vers le cimetière, on le traverse. On fait une pause dans un bois. Et de là, on regarde notre village flambé. On arrive au hameau du Teil. Et là, on tombe sur des gens qui regardent Oradour brûler. On leur raconte.
Vous n'auriez pas à boire.
On a très soif. Une femme nous tend une bouteille de vin. Mathieu veut rejoindre le hameau de sa mère. Et moi, je décide de m'éloigner le plus possible, en évitant les routes, les chemins, les maisons. Je marche comme ça jusqu'à environ 10h30 du soir. Et j'arrive au hameau de la Martinerie. Je vois une fenêtre éclairée.
Mais d'où arrivez-vous ?
J'arrive d'Oradour. Les Allemands. Ils ont tué tous les hommes là-bas.
Tous les hommes ? Mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils s'attaquent à vous ?
Rien. Enfin, je sais pas, moi. Et là se produit un miracle. Dans la même maison, je retrouvais effrayés les enfants du tanneur qui s'étaient enfuis juste avant l'attaque. Jacqueline, Francis et André, le petit handicapé.
Dis, Robert, tu sais ce qui s'est passé à Oradour ?
Oui. Ils ont tué tous les hommes.
Et les femmes ? Et les enfants ?
Ils les ont épargnés, je crois. Je n'en sais rien, en fait. Mais je suis convaincu qu'ils les ont épargnés. Je suis convaincu que je vais retrouver ma mère et ma sœur. Je ne sais pas, à ce moment-là, ce qui s'est passé à l'église. Jacqueline me nettoie les plaies avec de l'eau de vie. Et je passe la nuit à même le sol, dans cette maison. Le lendemain matin... C'est étrange, mais je ne suis pas totalement effondré. Je suis en vie. Mon père aussi, sans doute, puisqu'il n'était pas au village. Et je ne m'inquiète pas pour ma mère et mes sœurs. Je suis sûr qu'elles sont saines et sauves. On les a juste évacuées pour qu'elles n'assistent pas au massacre des hommes, c'est tout. Où sont-ils, d'ailleurs, à cette heure-ci ? Peut-être chez ma sœur aînée, Odette, elle habite à quelques kilomètres d'Oradour, à Pouyol. Ils doivent être tous là-bas. Et donc je propose aux enfants du tanneur d'y aller avec moi. Et on y va à travers champs, en évitant les routes, et en portant le petit André, handicapé. Quand on arrive à Pouyol, je retrouve mon père et ma sœur aînée. Ils savaient que j'étais vivant, un autre rescapé le leur avait dit. Mais ils ne savent rien de ce qui s'est passé à Oradour. Rien.
Tu dis qu'ils vous ont rassemblés sur la place ? Et qu'ils ont séparé les hommes et les femmes.
À ce moment-là, on pense toujours que les femmes et les enfants ont été épargnés. Aux alentours de 8h30 du soir, mon père décide d'aller voir. Il enfourche un vélo, il s'approche de l'église.
Et là, il voit les corps. Les corps calcinés des femmes et des enfants du village qui brûlent encore. Et lui, il se retrouve tout seul, face à ces ruines encore fumantes. Quand il revient chez ma sœur, il essaye de se rassurer.
Elle peut pas être toute morte dans l'église, c'est pas possible.
Le lendemain, il est allé les chercher partout dans la campagne alentour. Il les a pas trouvés. Il n'y a eu qu'une seule rescapée du massacre de l'église, notre ancienne voisine, Marguerite Roufanche. Plusieurs fois, elle m'a raconté ce qui s'était passé. La terreur de ces femmes, de ces mères qui tenaient leurs bébés à bout de bras, et de jeunes SS qui, aux alentours de 4 heures de l'après-midi, ont posé une caisse au milieu de la nef de l'église. Et l'explosion qui a suivi. Et juste après, les SS qui rafalent. Et le feu. Je n'ai pas eu de désir de vengeance. J'étais plus abattu que révolté. Et si fin juin j'ai rejoint le maquis, la résistance, c'est par une suite de hasards, sans préméditation, plus poussé par le désir de retrouver une famille que par patriotisme. Après, comme les rescapés des camps de concentration, je me suis senti coupable d'être revenu de l'enfer. Oui, une culpabilité. Et donc j'ai décidé de me taire. Pendant toute ma carrière de garagiste, je n'en ai jamais parlé, jamais. Je n'ai jamais voulu me présenter comme un survivant de la Grange Lodi. Dans mon entourage professionnel, très peu de gens savaient. Mais en 1953, il y a eu un premier procès à Bordeaux. Et on m'a demandé de témoigner à la toute fin. Ils étaient là, 21 d'entre eux, dans leur costume, sans leur uniforme SS. Deux seulement furent condamnés à mort. Et les autres à des peines de 5 à 12 ans de prison. Et de toute façon, quelques jours plus tard, au nom de la réconciliation, ils ont tous été amnistiés. Ça a été terrible, ça. Pour nous. Il y a eu un deuxième procès, en 1983, à Berlin-Est, pour juger le sous-lieutenant Heinz Barth, qui avait participé au massacre. Et là encore, j'ai tenu à témoigner. Et j'ai pu lui poser des questions. Pourquoi ?
J'ai obéi aux ordres. Rien de plus.
Il a été condamné à la prison à vie. Il y a quelques années, ma petite fille Agathe est entrée en 6e. Elle m'en a pas parlé, hein, mais elle a choisi d'apprendre l'allemand. Moi, de toute façon, j'étais d'accord. Et j'espère que ce récit prolongera ma parole après ma mort et contribuera à faire durer la paix entre les peuples. J'ai tiré ce récit de son livre paru aux éditions Elitel avant que ma voix ne s'éteigne.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.